Bon, nous allons continuer notre étude biblique sur le livre de Jacques. Comme vous savez, depuis quelque temps, on a déjà entamé les deux premiers chapitres et la dernière fois le début du chapitre 3. Je ne sais pas si vous en souvenez de ce qu'on avait pu partager avec le début du chapitre 3 de Jacques. Il était question en fait de la langue et l'importance aussi de ne pas se précipiter à vouloir enseigner. Parce qu'il y avait un jugement particulier qui était réservé à ceux qui le faisaient. Et Jacques avait quand même défini la langue d'une manière assez, assez pimentée. Hein, alors on va poursuivre donc avec les versets suivants, et on va terminer ce soir chapitre 3, à partir des versets 13 à 18. Voilà. Donc les versets 13 à 18 qui vont nous parler de deux sagesses. C'est ce que Jacques, en tout cas, va exprimer au travers de ces versets. Je vous mets juste le plan. Donc, les versets 13 à 18. Il est question des deux sagesses. Le verset 13 va nous parler principalement de la sagesse qui se révèle par l'action. Et après, Jacques va définir donc les deux types de sagesse, celle qui est terrestre, des versets 14 à 16, et celle qui vient du ciel, des versets 17 à 18. Je vous fais la lecture. Si vous avez oublié, vous pouvez suivre aussi avec moi. Jacques 3, versets 13 à 18. Alors, je vous lirai en version parole de vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un de sage parmi vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intelligent? Alors, il doit le montrer par sa bonne conduite, par des actes faits avec douceur et sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et l'envie de passer devant les autres, ne vous vantez pas. Ne dites pas de paroles contraires à la vérité. Cette sagesse-là ne vient pas d'en haut, elle appartient à la terre, elle est humaine, elle ressemble à celle des esprits mauvais. Quand les gens sont jaloux, quand ils ont envie de passer devant les autres, il y a du désordre et toutes sortes d'actions mauvaises. Mais la sagesse d'en haut donne d'abord un cœur pur, puis elle apporte paix et douceur. Elle cherche à unir, elle est pleine de bonté et elle produit des actions bonnes. Elle ne fait pas de différence entre les gens, et elle n'est pas fausse. Ceux qui aiment la paix répandent la paix autour d'eux comme des semences, et les fruits qu'ils récoltent, ce sont des actions justes. Amen. Amen. Alors, la première chose dont il est question, et dont ce que Jacques nous parle ici, c'est la sagesse qui se révèle par l'action avec le premier verset, le verset 13. Qui parmi vous est sage et intelligent? Je ne sais pas vous, mais c'est une drôle de manière quand même d'aborder un sujet. En fait, quand j'ai lu ça, je me suis dit, en fait, ça m'a fait penser à une scène, un peu, je me suis imaginé ça, en fait, un moniteur d'école du dimanche, avec ses enfants en bas, et il arrive, et puis il pose cette question à ses élèves en disant, « Alors les enfants, qui parmi vous connaît Jésus ?» Et là, j'imagine les enfants vont dire, « Oui, je sais, moi, c'est le Fils de Dieu. Oui, moi, je sais, c'est le fils de Marie et Joseph. Ah, moi, je sais aussi que c'est le frère de Jacques. » Il est très perspicace, il a suivi des études. Mais en tout cas, ils vont commencer à répondre comme ça. Et la deuxième question, le moniteur va leur poser. Ok, donc j'ai compris, vous connaissez un peu qui est Jésus. Mais maintenant, qui a déjà rencontré Jésus? Et là, je dirais qu'il y a un peu moins de personnes, peut-être l'enfant, qui vont peut-être oser parler. Et au fait, cette manière de faire, comment Jacques au fait, eh bien, s'exprime là, pour moi, ça a vraiment un effet de décantation. Parce qu'il faut comprendre que Jacques s'adresse ici à des judéo-chrétiens, ce sont des juifs qui se sont convertis nouvellement à Christ. Et il y avait dans ces coutumes-là, eh bien, justement, cette manière eh bien, de tout de suite, qui est-ce qui, si parmi vous, il y en a qui sont sages, il y en avait certainement qui devaient eh bien, se mettre en avant. Et d'ailleurs, quand on lit le chapitre 3, et au début du chapitre 3, Jacques dit bien surtout, ne vous pressez pas de vouloir enseigner. Donc c'était quelque chose quand même qui était peut-être très présent au travers de ses lecteurs. Et justement, il essaye de décompter justement ces pratiques qui existaient à l'époque. C'est-à-dire ces personnes qui n'avaient pas peur, en fait, eh bien, de se prétendre sages et intelligentes et se vanter justement de cela. Donc, à l'époque où se déroulent les événements, lorsque Jacques écrit cette lettre, il y a aussi toutes ces influences, grecques, qui étaient vraiment portées sur la philosophie. Et les Grecs, vous savez, aimaient se nourrir de connaissances, aimaient aussi se nourrir d'intelligence et de sagesse sans pour autant eh bien, la mettre en pratique ou en action. Jacques ici évoque la sagesse et l'intelligence ensemble. Mais malheureusement, aujourd'hui, le mot sage eh bien, peut aussi prendre une autre tournure de sens. Une personne sage, par exemple, peut être qualifiée comme une personne qui va rester tranquille. Et je pense à des enfants. Un enfant sage, c'est un enfant qui va rester calme, assis sur sa chaise et qui ne va surtout pas faire de bruit. Le mot sage, ça peut aussi qualifier une personne qui va être prudente, qui va faire attention à ce qu'elle fait, à ce qu'elle va dire. Ou encore, une personne sage peut aussi être une personne qui va avoir des paroles sensées, des paroles, disons, raisonnables. Et je vous ai mis quelques exemples de paroles peut-être sages de certaines personnes que nous pouvons connaître. Bob Marley dira ceci, « Ne vis pas pour que ta présence se remarque, mais pour que ton absence se ressente. » Intéressant. Mère Teresa nous dit ceci, « Donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer. » Ça aurait pu clairement faire un verset dans la Bible, ça. Donc pour Jacques, la sagesse et l'intelligence vont de pair, parce que l'intelligence, c'est le fait d'acquérir des connaissances, et la sagesse, c'est d'assimiler ces connaissances pour les mettre en pratique dans notre vie. Et lorsque l'on parle de sagesse, surtout dans la Bible, on pense souvent à une personne en particulier. On pense au roi Salomon. Et c'est étonnant parce que lorsqu'on examine un peu l'histoire du roi Salomon et surtout la manière dont il a acquis cette sagesse, cette intelligence, eh bien, on voit quand même qu'il s'est passé quelque chose de particulier. Alors qu'il s'apprêtait à prendre la responsabilité et le commandement du peuple d'Israël, un soir, Dieu vient à lui et lui demande et lui dit ceci, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et plutôt que de choisir la gloire et la richesse, Salomon demande à Dieu la sagesse et l'intelligence afin de pouvoir conduire son peuple. Et la réaction de Dieu ne se fait pas attendre. On lit ça dans 1 Roi chapitre 3, versets 10 à 14. C'est la réaction de Dieu. Et déjà, rien que le verset 10, je trouve ça magnifique. Cette demande de Salomon plaît au Seigneur. Dieu répond au roi, « Tu n'as pas demandé pour toi une longue vie. Tu n'as pas demandé la richesse ni la mort de tes ennemis, mais tu as seulement demandé de savoir bien juger pour gouverner avec justice, puisque tu as demandé cela. Je vais te donner ce que tu as demandé, un cœur sage et intelligent. Avant toi, personne n'a été aussi sage et intelligent, et après toi, personne ne le sera autant que toi. Je vais même te donner ce que tu n'as pas demandé, la richesse et l'honneur. Pendant toute ta vie, aucun roi ne sera aussi grand que toi. Et si tu fais ce que je demande, si tu obéis à mes ordres et à mes commandements, comme David ton père, je te donnerai une longue vie. Amen. Dieu accorde ici à Salomon ce qu'il lui avait demandé. Mais plus encore. Il lui donne largement plus encore, tellement sa renommée au roi Salomon a dépassé des limites qu'aujourd'hui, on en parle ce soir à Poitiers, en étude biblique. Et c'est parce que Salomon a reconnu devant Dieu son incapacité à gérer son propre peuple, qu'il demande à Dieu la sagesse et l'intelligence. Et c'est aussi parce que Salomon cherchait à gouverner selon la justice de Dieu. Et moi, ça m'interpelle d'une manière personnelle. J'ai besoin, moi personnellement, d'avoir la sagesse de Dieu et son intelligence pour ma famille. Vous savez, quand on a des enfants, ils ne sont pas livrés avec un mode d'emploi. On apprend à les élever. Par-ci, par-là, on tire des conseils par-ci, par-là. Mais j'ai besoin de la sagesse de Dieu et de son intelligence. J'ai aussi besoin de la sagesse de Dieu et de son intelligence pour mon Église. J'en ai aussi besoin pour mon travail, pour mes études, pour ma vie entière. Et on doit reconnaître que nous en avons tous besoin tous les jours.
Ouais.
Salomon a écrit dans le livre des Proverbes, et vous savez que le livre des Proverbes, c'est quand même le livre de la sagesse. Il a écrit ceci au chapitre 8, au verset 11, en parlant de la sagesse. « En effet, moi, la sagesse, j'ai plus de valeur que les bijoux, et je suis plus précieuse que tout ce que vous désirez. » La sagesse, c'est un don de Dieu. Et Dieu la répand sur nous généreusement, sans faire de différence. Et pour cela, il nous suffit de la lui demander Et c'est ce que Jacques avait dit dans son premier chapitre, souvenez-vous, chapitre 1 et au verset 5. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il doit la demander à Dieu. Et Dieu lui donnera cette sagesse. En effet, Dieu, donne à tous généreusement, sans faire de reproche. Jacques assimile d'une certaine manière la sagesse de la même manière que la foi. Vous savez, au chapitre 2, si vous en souvenez, il avait écrit que la foi sans les œuvres était une foi morte, une foi sans pas grand-chose. Eh bien ici, au chapitre 3, il nous dit que si vous avez de la sagesse et de l'intelligence, alors celle-ci doit se voir dans votre conduite. Mais Jacques ajoute une chose supplémentaire, votre sagesse doit se voir par des actes faits avec douceur. Et la version Parole vivante donne une précision complémentaire, verset 13. Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui se prétend sage et expérimenté, qui en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de cette humilité et de cette douceur qui caractérise la véritable sagesse. L'humilité et la douceur de la sagesse, ce sont des traits de caractère que l'on retrouve aussi en Jésus. Dans Matthieu 11, au verset 29, en français courant, il nous est dit ceci, c'est Jésus qui dira cela, « Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » En fait, pour Jacques, la véritable sagesse doit être manifestée, donc par une bonne conduite. Et cette sagesse produit donc des œuvres qui sont faites avec humilité et douceur. Ensuite, Jacques va maintenant nous parler de ces deux types de sagesse qu'il existe. Et il ne commence pas par la meilleure, ou en tout cas par la plus belle. Mais il commence donc par la sagesse terrestre. C'est celle que nous devons absolument éviter, bien entendu, de mettre en pratique. La sagesse terrestre, versets 14 et 16. « Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et l'envie de passer devant les autres, ne vous vantez pas. Ne dites pas de paroles contraires à la vérité. Cette sagesse-là ne vient pas d'en haut, elle appartient à la terre. Elle est humaine, elle ressemble à celle des esprits mauvais. » Quand les gens sont jaloux, quand ils ont envie de passer devant les autres, il y a du désordre et toutes sortes d'actions mauvaises. Ici, Jacques met d'abord en avant ce qui pourrait animer notre cœur. Et on sait que de nombreuses choses dépendent de notre cœur. Le cœur, c'est un peu le siège de nos émotions, le siège de nos sentiments et de tout un tas de choses. Et vous connaissez très bien ce passage dans la Bible qui nous dit « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». J'ajouterai aussi que c'est de l'abondance du cœur que la main agit. Jacques parle ici de jalousie amère. C'est le contraire de ce qu'il avait dit juste avant. Vous savez, lorsqu'il disait que la sagesse devait se manifester par des actes d'humilité et de douceur. Et dans certaines versions, le passage traduit le mot jalousie amère par un zèle amer. Et le zèle, vous savez, n'a pas toujours au fait cette connotation négative dans la Bible. Je pense par exemple à Nombre 25 au verset 11 à 13. Il nous est dit « Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité et après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel parce qu'il a été zélé pour son Dieu. » Et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Dans Jean chapitre 2 au verset 17, il nous est parlé aussi de ce que Jésus ressentait. Ses disciples diront, « Ils se souvèrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Ce que Jacques ici souligne, c'est que le zèle qui est motivé par contre par une ambition personnelle et qui recherche son propre intérêt, en faisant usage de paroles médisantes, eh bien celle-ci, ce zèle ou cette jalousie, eh bien, elle est amère, elle est néfaste, elle est motivée par de mauvaises intentions et elle est complètement contraire à la vérité de Dieu. C'est le type de parole que l'on pourrait entendre, par exemple, c'est ma façon de voir et puis c'est tout, rien du tout, je ne veux rien entendre. Vous comprenez ? Paul, justement, va condamner à plusieurs reprises cette jalousie
On voit ça dans Romains chapitre 13, versets 13 à 14, il va dire ceci. « N'ayons pas une vie immorale, ne nous conduisons pas n'importe comment, évitons les disputes et les jalousies. Soyez semblables au Seigneur Jésus-Christ. Ne vous laissez pas entraîner vers le mal par vos mauvais désirs. » Et dans Galates chapitre 5, verset 20, il dit ceci. « Ils adorent les faux dieux, ils pratiquent la sorcellerie, ils détestent les autres, ils se disputent, ils sont jaloux, ils se mettent en colère, ils cherchent à passer devant tout le monde, ils se divisent en parties et en groupes opposés. » Si Jacques s'exprime de cette manière dans sa lettre, c'est que dans la réalité des choses, dans la réalité des faits, il y avait des personnes qui n'hésitaient pas justement à se mettre en avant avec leur soi-disant sagesse et intelligence. Et n'agissaient pas justement avec douceur et avec bienveillance. Ces personnes agissaient plutôt avec des paroles et des actes de jalousie, gonflés d'orgueil, voire même à juger les gens. Et Jacques dit clairement que cette sagesse ne vient pas d'en haut. Elle ne vient pas du ciel, c'est-à-dire elle ne vient pas du Père des Lumières chez qui il n'existe aucune ombre de variation. Et j'ai noté ceci parce que Jacques ne mentionne pas que cette sagesse vient de Dieu. Il aurait pu, mais il ne le fait pas. En fait, il utilise le terme d'en haut qui est, alors de ce que j'ai lu dans les commentaires, un style rabbinique. Parce qu'il ne faut pas oublier que là, Jacques s'adresse vraiment à des Juifs qui se sont, comme je l'ai dit au début, nouvellement convertis à Christ. Et c'était justement pour contrer ceux qui enseignaient le peuple et qui n'hésitaient pas à mettre en avant leur sagesse, leur intelligence et leur connaissance. Mais au travers de ça, on comprend que cette sagesse-là, elle n'est pas de Dieu. Et Jacques poursuit en qualifiant que cette mauvaise sagesse, eh bien, elle a quand même des effets. Et il va donner trois adjectifs. Chapitre verset 15, il dit ceci, « Cette sagesse-là ne vient pas d'en haut, elle appartient à la terre, elle est humaine, elle ressemble à celle des esprits mauvais. » Ma version parole vivante nous est dit ceci, « En effet, une telle sagesse ne vient certes pas du ciel, elle est bien de ce monde, elle est le produit de votre nature livrée à ses seules ressources et est du diable. » Trois adjectifs ici que l'on peut identifier ainsi, le monde, la chair et le diable. Cette sagesse, en fait, résulte du péché du monde, des convoitises de la chair et de l'adversaire, le diable, qui par jalousie et orgueil s'est lui-même retourné contre le Créateur du ciel et de la terre. On retrouve donc ici tous les éléments qui forment d'une manière bien claire le péché et la rébellion dans tous ses états. Cette sagesse, on peut dire qu'elle est l'antithèse de la sagesse d'en haut, par sa nature, parce qu'elle est terrestre et non céleste, par son essence, parce qu'elle est charnelle et non spirituelle, mais aussi par son origine, parce qu'elle est démoniaque et non divine. Jacques décrit vraiment les effets de cette sagesse. Elle n'apporte que du désordre, du mépris, et elle pousse justement les personnes dans un climat de tension, de conflit, et laisse une porte ouverte à toute mauvaise chose. Si le cœur est rempli de jalousie, de rivalité, de mauvaises intentions animées par l'orgueil et le simple fait de satisfaire ses propres besoins, alors cette soi-disant sagesse ne produira que de mauvaises choses. Et enfin, Jacques termine par la véritable sagesse. Celle que nous devons tous rechercher à avoir, c'est la sagesse qui vient d'en haut, celle qui vient du ciel. Et il termine avec ces deux versets, versets 17 et 18. Mais la sagesse d'en haut donne d'abord un cœur pur, puis elle apporte paix et douceur. Elle cherche à unir, elle est pleine de bonté et elle produit des actions bonnes. Elle ne fait pas de différence entre les gens et elle n'est pas fausse. Ceux qui aiment la paix répandent la paix autour d'eux, comme des semences, et les fruits qu'ils récoltent, ce sont des actions justes. Si vous remarquez ici, Jacques ne dit pas ce qu'est la sagesse d'en haut, mais il dit ce qu'elle produit. Elle produit premièrement un cœur pur. Et la pureté signifie vraiment l'intégrité, c'est-à-dire d'être préservé de toute tâche ou de tout péché. La sagesse d'en haut ne produit pas de mauvaises choses et ne produit pas de péché. Deuxièmement, elle apporte la paix. Et certaines versions disent qu'elle est pacifique. C'est-à-dire que la sagesse d'en haut ne produit de bonnes relations. Et des relations que ce soit entre nous, entre êtres humains, ou aussi dans notre relation personnelle avec Dieu. La sagesse d'en haut ne produit pas de division ou des querelles. Et d'ailleurs, Jacques s'en sert aussi pour faire rappeler à ses lecteurs, justement, qui se vantaient de leur sagesse, que la sagesse d'en haut, eh bien, ne faisait pas cela. Troisièmement, elle apporte la douceur. La sagesse d'en haut ne produit pas d'agressivité ou de la violence en parole ou en acte. Cependant, elle est prête à céder quand cela est nécessaire. Quatrièmement, elle cherche à unir. Certaines versions disent qu'elle est conciliante. Elle ne cherche pas à diviser ou séparer, mais elle recherche l'unité. Elle fait aussi appel à la soumission. Cinquièmement, elle est pleine de bonté et de produits et produit des bonnes actions. Tout comme la foi produit de bonnes actions, la sagesse d'en haut produit aussi de bonnes actions. Et pas seulement de bonnes paroles, mais aussi de bonnes actions qui sont remplies d'amour, de bonté et de compassion. Sixièmement, elle ne fait pas de différence entre les gens. Il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de différence entre les personnes. Et enfin, elle n'est pas fausse. Elle est sans hypocrisie. La sagesse d'en haut, elle est sincère. Elle est sans prétention. La sagesse de Dieu est vraie et totalement sincère. Tous ces attributs que Jacques souligne font un peu penser aussi à ce que Paul enseigne au sujet du fruit de l'esprit. Parce que là, ce qu'on comprend, c'est que la sagesse de Dieu a produit quelque chose. Elle a un effet vraiment productif. Tout comme le fruit de l'esprit, ce qu'il peut produire dans notre vie. Et Paul rappelle dans Galates 5, 22, « Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. » Amen. Enfin, Jacques termine son chapitre par ce dernier verset. « Ceux qui aiment la paix répandent la paix autour d'eux, comme des semences, et les fruits qu'ils récoltent, ce sont des actions justes. » Jacques résume vraiment dans ce dernier verset ce qu'est la véritable sagesse de Dieu. Pour répandre la paix autour de nous, je dirais que c'est simple, quand tout va bien. Mais lorsqu'il y a des tensions, lorsqu'il y a de l'opposition, là c'est moins facile. Mais nous devons nous efforcer à être justement ces artisans de paix, autour de nous et parmi nous aussi. On parle souvent de « autour de nous », donc on pense à l'extérieur de l'Église, mais je dirais que même parmi nous, au sein de l'Église. Parce que les fruits qui seront récoltés seront des fruits qui plairont à Dieu. Alors même si cela peut être difficile, je pense que nous ne devons pas oublier que nous avons quand même le prince de la paix qui vit en nous. Amen. Proverbe chapitre 9 et au verset 10, et je terminerai avec ceci. Reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Connaître celui qui est saint procure l'intelligence. Amen.
Amen.
Reconnaître Dieu, c'est l'aimer, c'est le respecter. Respecter Dieu, c'est faire ce qu'il aime. C'est parler et agir en désirant le plaire. Et pour pouvoir acquérir sa sagesse, eh bien, nous devons la demander. Mais aussi être dans cette attitude de dépendance, de soumission, de reconnaissance de son autorité dans nos vies. Respecter Dieu, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Et c'est aussi aimer son prochain plus que nous-mêmes. Amen.
Amen.
Amen.